Classique 21, you rock.
Radio Caroline.
Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous accueillir sur le pont du cargo de Radio Caroline avec à bord aujourd'hui un personnage dont l'arrivée dans le milieu du disque au tout début des 70s pourrait être qualifiée de disruptive, Richard Branson, créateur du mythique et jadis très prisé label discographique indépendant Virgin, qui nous occupera principalement aujourd'hui, mais Richard Branson, qui par ailleurs et par la suite s'engagera non sans témérité dans d'autres aventures glorieuses ou avortées, dans les télécommunications, les boissons, les vêtements, les cosmétiques, la radio, mais aussi surtout les transports, avec bien sûr les avions, l'espace et les rails, les Virgin Trains. Une soif inextinguible d'entreprendre que Richard contractera dès l'enfance. C'est en juillet 1950, dans le sud-ouest de Londres, que naît Richard Branson, premier enfant de Ted et Eve. Ted, fils et petit-fils de grands avocats, et Eve, issue d'une famille dans laquelle les femmes ont toujours eu une vraie place dans la société et qui fut un temps danseuse de ballet puis hôtesse de l'air avant de s'orienter vers d'autres voies. Eve qui, jeune mère, veut que ses enfants deviennent les plus autonomes possibles et les éduque en ce sens. C'est ainsi qu'alors que Richard n'a que 4 ans, elle arrête un jour sa voiture à 5 ou 6 kilomètres de la maison, demande à son petit Ricky de descendre et le laisse retrouver son chemin par ses propres moyens, ce qu'il ne parviendra pas à faire, se dit en passant. Richard, qui souffre de dyslexie, sera un élève assez médiocre, ce qui ne l'empêchera pas d'arracher le poste de capitaine des équipes de football et de cricket de son école. Et puis, encore une fois, il y a ce socle, ces fondations que constitue la famille Branson, dont il a toujours été et sera éternellement amoureux, c'est le terme qu'il emploie. Famille au sein de laquelle tout le monde s'aime, Richard et ses deux sœurs, Lindy et Vanessa, mais aussi les parents Ted et Eve. Le père, élément calme du couple, goûte sa pipe autant que son journal, sans pour autant avoir complètement étouffé le caractère aventureux qui lui avait fait espérer devenir archéologue avant d'être contraint de faire le droit. Quant à sa mère, alors que Richard accumule les frasques et les bêtises, elle n'en est pas moins persuadée qu'il sera un jour Premier ministre. Et puis c'est la mère, on l'a compris, qui est l'élément galvanisant de la tribu. À la maison, racontera Richard, maman avait deux obsessions, nous donner du travail et penser à toutes les manières possibles et imaginables de se faire de l'argent. Elle travaillait la plupart du temps dans son atelier au fond du jardin où elle fabriquait des boîtes en bois pour mouchoirs qu'elle fournissait à différents magasins et même chez Harrods. Mais quoi qu'elle fasse, elle déploiera toujours un torrent d'énergie auquel il était difficile de résister. On comprend mieux qu'âgé d'à peine 12 ans, Richard Branson se lance dans un commerce de jeunes plants de sapins qu'il a mis en terre lui-même, espérant les vendre aux vacances de Noël. Sauf que des lapins quelque peu rongeurs ruineront cette première tentative de business. Plus tard, en 1969, à l'âge de 19 ans, c'est un magazine titré Student et adressé, on l'a compris, aux étudiants qu'il lance. Le problème, c'est que s'il y publie des interviews de personnalités très importantes comme l'existentialiste Jean-Paul Sartre, les romanciers James Baldwin et Alice Walker ou encore le poète Robert Graves, ce journal ne rapporte rien. Dès lors, pour renflouer ses caisses, Branson a l'idée de vendre des disques par correspondance à prix réduit, faisant paraître des publicités pour ceux-ci dans Student. Un commerce qu'il nomme Virgin Mail Order Records, Virgin puisqu'il s'estime vierge d'expérience en la matière. Mais au final, cette activité de vente de disques par correspondance deviendra plus lucrative que le magazine. En conséquence de quoi, Branson décide de louer à Londres un local vide au-dessus d'un magasin de chaussures sur Notting Hill Gate. Il y installe quelques étagères, recrute le personnel de Student et ouvre un petit magasin de disques à bas prix. Un endroit qui se spécialise rapidement dans l'import de ce que les spécialistes appelleront le krautrock, cette musique expérimentale allemande qui compte comme figure de proue les groupes Can et Tangent Dream. L'autre originalité de ce magasin, créé par Richard Branson et son pote, ne l'oublions pas, Nick Powell, c'est que les vinyles que l'on y trouve, on peut non seulement les acheter, mais aussi les écouter sur place, tout en mangeant gratuitement des plats végétariens. un commerce qui constitue d'une certaine manière le premier étage de la fusée qui permettra à Richard Branson et à son partenaire de se lancer dans la production musicale. Nous évoquions à l'instant la petite boutique de disques bien peu commune créée par Richard Branson et son complice Nick Powell, laquelle s'installera de façon bien plus professionnelle sur Oxford Street en 1971 toujours. Un Virgin Records Shop dont le succès et les revenus qu'il engendrera permettront aux deux partenaires de lancer en 1972 un label discographique également nommé Virgin. Dans le même temps, avide de maîtriser tous les rouages du business, ou en tout cas quelques-uns, Branson ouvre un studio d'enregistrement dans un manoir au nord d'Oxford, la ville cette fois, pas la rue, bâtisse qu'il a acquise et qui deviendra le premier studio résidentiel de Grande-Bretagne. Et c'est dans ce Manor Studio que Mike Oldfield enregistrera son fameux Tubular Bell. Mais attardons-nous un instant sur la rencontre entre Mike Oldfield et Richard Branson, grâce auquel sera conçu ce disque Tubular Bells, pierre angulaire de ce label naissant Virgin, et revenons pour cela quelques temps plus tôt. En 1970, Mike Oldfield, 17 ans, qui maîtrise la guitare depuis son plus jeune âge, devient guitariste et bassiste du groupe Whole World, fondé par Kevin Ayers, ex-Soft Machine. Lequel Whole World enregistre pendant plusieurs mois, en 1970 toujours, l'album Shooting at the Moon au studio Abbey Road. Quand aucune session n'est prévue le matin à Abbey Road, le jeune Oldfield en profite pour arriver tôt et expérimenter seul différents instruments qui s'y trouvent dans ce studio, piano, clavecin, mélotron, percussion, et apprendre ainsi à en jouer. Quand le groupe se sépara peu après la sortie de l'album, au milieu de l'année 1971, son leader, Kevin Ayers, prêtera à Oldfield un magnétophone de piste que le jeune musicien va trafiquer pour pouvoir superposer sur la bande divers instruments dont il joue seul et mettre en boîte les démos de 4 morceaux avant de composer un long instrumental influencé tout à la fois par la musique classique et par A Rainbow in Curved Air, enregistré par le compositeur expérimental Terry Riley. Et dont voici un extrait. L'inspiration donc de ce qui donnera chez Oldfield Opus One, premier extrait de Tubular Bells, dont il enregistre tout d'abord cette maquette. Fin 1971, Mike Oldfield se joint à un autre groupe qui enregistre des démos au Manor Studio de Richard Branson. Oldfield se lie d'amitié avec les responsables du lieu, il leur fait écouter ses maquettes et ceux-ci lui promettent d'en parler à Richard Branson. En attendant, Oldfield contacte aussi EMI et CBS, leur faisant écouter ses cassettes, mais aucun de ces labels ne le signe, persuadé que des instrumentaux n'ont aucun potentiel commercial. Frustré et à court d'argent, Oldfield apprend alors que l'Union soviétique paie des musiciens occidentaux pour se produire en public. Et il est sur le point de chercher le numéro de l'ambassade soviétique dans l'annuaire quand il reçoit un appel l'invitant à dîner avec Branson sur sa péniche amarrée à l'un des quais de Londres. Branson lui précise qu'il apprécie vraiment ses maquettes et lui propose de passer une semaine au Manor Studio pour enregistrer ce fameux Opus One et puis ce qui deviendra l'album entier Tubular Bells. Toute première signature de Virgin Records. Un coup de maître, sorti en 1973, l'album se classe rapidement dans le top 10 anglais pour comptabiliser finalement 3 millions d'exemplaires vendus rien que sur les territoires britanniques. Autant dire que les affaires de Virgin connaissent un décollage à la verticale. Au cours de la première moitié des années 70, Virgin naviguera donc entre le rock progressif et l'avant-garde électronique. Et pourtant, c'est ce même label qui engrangera la plus grosse part des bénéfices des stars du punk, les dénommés Sex Pistols, qui EMI a viré et que le label A&M a lourdé 6 jours seulement après la signature de leur contrat. C'est ainsi que le 27 mai 1977, Virgin sortira God Save the Queen, morceau qui, on le sait, fera scandale en plein jubilé de la reine Elizabeth et se classera rapidement en tête des ventes en Angleterre, sans aucun passage à la BBC, on s'en doute. Peu de temps après, la police débarquera dans la boutique de disques toujours détenue par Virgin et au-dessus de laquelle se trouvent les bureaux du label pour retirer les affiches promo de l'album Nevermind Bollocks de Sex Pistols. Quoi qu'il en soit, au-delà du coût juteux pour le label de Richard Branson, la signature des Sex Pistols repositionne Virgin comme un label défricheur de tendance. Au tout début des années 80, les tendances se feront New Wave, New Romantic et Pop électronique. À l'instar de Orchestral Maneuvers in the Dark, duo formé au milieu des années 70 par deux musiciens originaires de Liverpool, Andy McCluskey et Paul Humphries, qui fréquentent alors le fameux Eric's Club, où traînent par ailleurs certains de ceux qui formeront Echo and the Bunnymen ou encore Frankie Goes to Hollywood. Après avoir sorti le titre Electricity sur le label Factory, Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD, est approché par Virgin, qui le signe sur son sous-label d'Indisc. Avec l'argent de l'avance versé par leur nouvelle maison de disques, Andy et Paul décident de construire leur propre studio à Liverpool, où ils enregistrent leur premier album, tout simplement nommé Orchestral Maneuvers in the Dark, lequel sort en février 1980 et sur lequel on trouve Message, leur premier succès. Mais la véritable consécration arrivera quelques mois plus tard avec, en 1980 toujours, l'album Organization et son single Enola Gay, énorme tube un peu partout en Europe. Un an plus tard, Dindisc, filiale donc de Virgin, sortira Architecture et Morality, 33 tours qui se classera numéro 3 en Grande-Bretagne, mais numéro 1 en Belgique. Et sur lequel sont gravés Souvenirs et Maid of Orleans, dont les ventes contribueront grandement au chiffre d'affaires de Virgin cette année-là. Au-delà de la musique, Virgin, ce sera dès le départ un état d'esprit, une culture d'entreprise assez originale dans le milieu du disque. Aucun costume cravate dans les bureaux du label de Richard Branson, ce qui est assez peu courant quand même à l'époque, même dans le milieu du disque. À sa création, au début des années 70, on s'habille cool, tout le monde perçoit le même salaire, modeste, et aucune hiérarchie à l'horizon. Au fil des ans, les choses évolueront sur le plan des salaires et de la hiérarchie, mais pour ce qui est de la dégaine, pull et jeans resteront de mise. Toujours dans le même ordre d'idées, Virgin établira longtemps ses quartiers généraux dans des immeubles sans style, pour ne pas dire assez cheap, au nord-ouest de Londres. Mieux, pendant toute une période, j'y faisais allusion, c'est une péniche qui accueillera le domicile privé et le propre bureau de Richard Branson, seulement secondé par deux secrétaires. La péniche où demeura d'ailleurs son bureau quand, sa famille s'agrandissant, Richard sera obligé de se trouver une plus vaste demeure. Mais repartons vers le début des années 80, alors que sonne l'heure de l'expansion géographique. Et pour cause, en 1980, Richard Branson confie au Français Patrick Zelnick, ex-boss du marketing de la firme Polydor, le soin de lancer une filiale française de Virgin. Avec bientôt pour signature un inconnu ou presque nommé Étienne Dao, Julien Clerc en mode reboot, un téléphone à la recherche de connexions internationales, mais avant tout, en guise de première signature, il faut le savoir, une comédienne et chanteuse nommée Valérie Lagrange, qui avait connu pas mal de succès dans les années 60 et qui refait surface avec un album enregistré à Londres, produit par un Britannique et sur lequel on trouve en 1980 le hit « Faut plus me la faire ». L'album de Valérie Lagrange sera disque d'or, belle pioche pour les débuts de la filiale française de Virgin. Pendant ce temps, à Londres, l'usine à tubes tourne à plein rendement. En décembre 1981, Human League, signé par le label deux ans plus tôt, connaît un succès colossal, on le disait, avec Don't You Want Me. Quant à son album, Dare, il s'imposera comme la plus grosse vente de Virgin après le Tubular Bells de Mike Oldfield. Autre découverte de Virgin à l'époque, Culture Club. Et une fois de plus, Richard Branson peut dire merci à la firme EMI qui, bien qu'ayant payé les démos enregistrées par le groupe de Boy George, se montrera sceptique en les écoutant et laissera filer le band. À l'inverse, en entendant ces maquettes, Virgin s'empressera de signer Culture Club, opération qui se soldera par un premier album dont l'un des singles cartonnera en 1982, Do You Really Want to Hurt Me, numéro 1 dans 9 pays, dont la Belgique. Mais les années 80, pour Richard Branson et Virgin, c'est aussi évidemment l'acquisition de Simple Minds. Le premier 33 tours de leur période Virgin, Sons and Fascination, sortira en 1981. Mais bien sûr, l'album qui réunira critique et public n'est autre que New Gold Dream, sorti en 1982. Au fil des années, Virgin Records signera les Rolling Stones, Pete Gabriel, XTC, Japan, UB40, Steven Wood, Paula Abdul et tant d'autres pour devenir le plus grand label indépendant au monde. Toujours en son sommet, Richard Branson n'en a pas moins la tête ailleurs. Lui qui, au cours de sa vie, tentera de battre différents records tels que la traversée de l'Atlantique en bateau ou des expéditions autour du monde en ballon. Et pour ce qui concerne le business, le temps des aventures nouvelles est aussi venu. Outre la création d'une antenne américaine de Virgin Records au cours de la décennie 80, la première véritable diversification du groupe sera le lancement en 1984 d'une compagnie aérienne baptisée Virgin Atlantic Airways, dédiée aux longs courriers décollant depuis Londres et bénéficiaire dès sa première année d'exploitation. Mais au début des années 90, malmené par une crise du trafic aérien causée par la guerre du Golfe, Virgin Atlantic, au bord de la faillite, doit être renfloué d'urgence. Richard Branson se voit donc contraint, la mort dans l'âme, mais bien décidé à faire vivre sa compagnie aérienne, de vendre Virgin Records à la firme EMI en 1992, et ce pour $1 milliard. Ce faisant, il s'engagera à ne plus œuvrer dans le business discographique pendant une période de 5 ans. Virgin Atlantic relancé, il crée Virgin Express en 1996, avant de se diversifier encore et toujours et dans le désordre, dans les sodas avec Virgin Cola, dans la finance avec Virgin Direct, dans le transport ferroviaire avec Virgin Trains, mais aussi dans le commerce électronique, les boissons alcoolisées, les vêtements, l'automobile, l'hôtellerie, les centres de remise en forme, la radio et la téléphonie. Autant de lancements de produits ou de marques qui, il faut bien le dire, ne seront pas tous couronnés de succès. Ainsi, les vêtements, la vodka et les produits cosmétiques seront des flops. Pour rebondir, dira Richard Branson, il ne faut pas avoir peur des échecs, mais les utiliser comme des outils de motivation et d'apprentissage. Il n'y a rien de mal à faire des erreurs, pourtant que vous ne fassiez pas les mêmes encore et encore. Mais Richard Branson pouvait-il se passer de musique ? Évidemment non. Et une fois le délai de non-concurrence avec EMI arrivé à son terme, il lance le label V2 en 1996, avant de le vendre 10 ans plus tard, non sans avoir signé Stereophonics, mais surtout distribué en Amérique du Nord, Moby et les 10 millions d'exemplaires de l'album Play. En 2007, Richard Branson décide de vendre ses Virgin Megastore, rampe de lancement de son épopée en 1971 et dont le premier magasin hors de Grande-Bretagne avait ouvert sur les Champs-Élysées en 1988. Cette même année 2007, sur son initiative et celle de Pete Gabriel, Nelson Mandela convoquera à Johannesburg une assemblée de dirigeants influents du monde entier qui veulent par là contribuer, à l'aide de leur expérience et de leur sagesse, à résoudre les problèmes les plus importants de la planète. Un groupe qui se nomme Global Elders. Desmond Tutu en sera le président du conseil et ses membres fondateurs compteront également Kofi Annan, El Abad, Jimmy Carter ou Mary Robinson parmi quelques autres. À la même époque, un séjour de quelques semaines au pôle Nord sous tente avec son fils fera prendre conscience à Richard Branson, de façon concrète, de l'importance des dangers climatiques qui menacent la planète. Sans pour autant nier que ses convictions s'accordent parfois mal avec son train de vie et son incapacité totale à l'immobilisme. Je prends très souvent l'avion, mais j'essaie de compenser par des actions utiles à la planète. À l'échelle Virgin, nous avons décidé que 100% des profits de nos entreprises « sales », entre guillemets, les compagnies aériennes, seraient reversés à la recherche pour des carburants propres, dira-t-il, à l'époque. Arrangé dans cette catégorie, sans doute, son envie de conquête spatiale, un long chantier amorcé dès 2004 avec la création de Virgin Galactic, qui verra enfin sa cristallisation le 11 juillet 2021 lors d'un vol d'une heure que Branson fera à bord d'un appareil de sa société à presque 100 km d'altitude, devançant ainsi Jeff Bezos de 9 jours et faisant de lui le premier milliardaire fondateur d'une compagnie spatiale à voyager aux limites de l'espace. Limite puisqu'en fait l'espace se situe au-delà de 100 km. Mais c'est en 2023 que Richard Branson touchera à son rêve. Si sa société Virgin Orbit, destinée à lancer des satellites, est en faillite après l'échec du premier lancement qui lui a fait perdre $1 milliard, il réalisera le 10 août 2023 une promesse faite 2 décennies plus tôt, l'envoi dans l'espace, pour quelques minutes certes, de 3 touristes, et ce lors du 2e vol commercial de Virgin Galactic, après un premier vol réalisé avec succès 2 mois plus tôt par des militaires italiens. J'ai prouvé une nouvelle fois que ceux qui annonçaient ma fin avaient tort, lancera Richard Branson. Et pour se reposer, quoi de mieux qu'un séjour dans son lodge de Verbier, refuge alpin ultra luxueux qui, en juillet 2025, se transforme en sanctuaire du bien-être ouvert à tous, enfin, à ceux qui peuvent se le permettre. Notre voyage se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir, à le faire connaître, à le partager et à l'étoiler. Belle journée ou bonne nuit.
Radio Caroline. Radio Caroline avec Olivier Monsens.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.